Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency.
Le fondateur de Radio IMO, comme chaque samedi jusqu'à 10h, on parle de votre logement sur Sud Radio. Bonjour à vous Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous.
Au programme ce matin.
Alors comme on le sait chaque semaine, on parle vrai, on parle immobilier, on va essayer de trouver des solutions à vos problèmes et de vous renseigner notamment dans le domaine de l'immobilier. Cette semaine, je vous propose Jean-Marie de faire un focus sur un phénomène que l'on connaît assez peu finalement, c'est le gaspillage de mètres carrés. Avec un angle très intéressant, les bâtiments ne sont pas assez utilisés et pourraient être par exemple mutualisés. C'est ce dont on va parler avec une élue très engagée sur le sujet, c'est Eleonore Slamin.
Eh ben c'est parfait, c'est passionnant, on a tous des espaces inutiles dans nos immeubles. On va parler aussi répondre aussi aux questions de nos auditeurs.
Absolument, les questions de nos auditeurs qui sont chaque semaine de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur l'immobilier, mais aussi bien évidemment sur la rénovation énergétique, c'est bien le sujet également du jour.
Oui, c'est au 0826 300 300 que vous laissez vos messages. Les chaudières, c'est au programme ce matin.
Absolument. Ouais. Et on est à l'approche de l'hiver, donc
mais c'est ça, ça peut servir. Exactement. On en parlera. On fera le tour de France des biens à acheter, des biens coup de cœur un peu partout en France. Mais tout de suite, on commence par les infos de la semaine à retenir avec Grégoire Daricot. Bonjour à vous, mon cher
Jean-Marie.
Sylvain.
Salut Grégoire. Bonjour, on va commencer par une mauvaise nouvelle, de plus pour les propriétaires.
Je suis désolé d'attaquer tout de suite de cette manière, mais Sylvain, le Premier ministre Michel Barnier a exaucé un vœu des collectivités locales. Les frais de notaire ou droits de mutation à titre onéreux vont augmenter de 0,5 points. Alors une décision qui tombe mal pour les Français, mais un coup de pouce non négligeable pour les collectivités.
Et oui, mais comment ça va se passer du coup?
Alors ça tombe mal pour les Français parce qu'on commençait à avoir une embellie, on en parlait dans cette émission sur le marché de l'immobilier, parce que ce seront les primo-accédants qui seront les principales victimes de cette mesure. On en avait parlé la semaine dernière, les primo-accédants, c'est un moteur essentiel pour le dynamisme du marché de l'immobilier et ils ont besoin en ce moment plus que d'habitude de tout le soutien possible pour mener à bien leur projet. Et d'après le courtier CAFPI, une hausse de 0,5% des droits de mutation dans une transaction immobilière représente grosso modo 1 250 euros supplémentaires pour un crédit moyen de 250 000 euros, et c'est non négligeable.
Écoutez, bis repetita, qu'est-ce qu'il fallait attendre de ce gouvernement qui tape encore sur les propriétaires et les primo-accédants? C'est pas grave, c'est comme ça. Vous avez parlé également d'un coup de pouce quand même sur les collectivités locales, c'est une vraie demande.
Oui Sylvain, parce que cette piste, elle était étudiée depuis longtemps. On rappelle que dans ce qu'on appelle les frais de notaire, tout ne va pas dans la poche du notaire, loin de là. En fait, sur ces frais de notaire dont vous vous acquittez pour l'achat d'un bien, frais qui sont de 2 à 3% pour un bien neuf et de 7 à 8% pour un bien ancien. En fait, vous avez donc 10% de ces frais qui sont effectivement la rémunération du notaire, 10% qui sont ce que l'on appelle les frais de débours, et 80% qui sont les droits de mutation, donc des impôts et taxes versés au trésor public.
C'est de la taxe.
Exactement. Donc ce que l'on appelle les frais de notaire, très injustement, donc vient essentiellement financer les collectivités plus que les notaires. Et évidemment, avec la chute des transactions, ça a causé des dégâts dans les comptes des collectivités avec un manque à gagner qui est chiffré à 3 milliards d'euros ces 3 dernières années, dont 2 milliards pour ces 12 derniers mois. C'est énorme. Rajoutez à ça la fin de la taxe d'habitation et vous avez des collectivités dont le budget est à sec. Et Michel Barnier, il a donc exaucé le vœu des départements. Il a annoncé cette mesure lors des dernières assises des départements de France. Une mesure qui est présentée comme temporaire par le gouvernement et à la discrétion des départements. Bref, c'est assez technique, mais en gros, acheter un bien, ça va vous coûter plus cher.
J'adore, moi, quand le gouvernement dit que c'est temporaire, je dis ça, mais je dis rien. Alors, Grégoire, on va terminer quand même par une nouvelle positive.
Oui, parce que j'en ai eu marre de vous faire le journal des mauvaises nouvelles, et des taxes. Voilà, exactement. Alors, j'ai cherché une bonne nouvelle à vous raconter. Et à défaut de bonne nouvelle, j'ai cherché quelque chose d'insolite ou de plus léger, et c'était pas très simple, mais on va parler du dernier baromètre de Qualitel qui s'appelle Habiter hier, aujourd'hui et demain. Dedans, on peut voir quelles sont les évolutions dans les logements qui ont marqué les Français ces 50 dernières années, et à travers ça, l'arrivée de certains équipements qui nous paraissent pourtant évidents aujourd'hui. Alors, les 65 ans et plus, catégorie qui ne concerne personne sur ce plateau, ne sont que 51% à avoir eu une douche, par exemple, dans leur logement de leur enfance, contre 74% des 25-34 ans, autre catégorie qui ne concerne personne sur ce plateau. Et pareil pour le lave-vaisselle, que 13% des 65 ans et plus avaient il y a 50 ans, contre 63% des 25-34 ans. Alors certains équipements que l'on pouvait retrouver il y a quelques années encore disparaissent, au grand regret de certains. Par exemple, 44% des interrogés n'ont plus de concierge et 40% le regrettent. 36% n'ont plus de cave et près de 50% le regrettent. Et 22% n'ont plus de placard ou de zone de rangement intégrée dans les chambres ou dans les séjours, et 70% le regrettent. Juste pour finir,
c'est
les
très
trois...
français quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre sondage, oui, il y a toujours plus de gens qui regrettent une perte que de gens qui ont perdu quelque chose.
En France, il faut bien qu'on râle, mais sinon c'est pas drôle. Bon, juste pour finir, les trois plus grandes améliorations depuis 50 ans, selon les interrogés, sont le double vitrage à 56%, l'isolation thermique des logements à 50% et l'isolation acoustique des logements à 46%.
Ouais, on va pas trop isoler acoustiquement, déjà qu'on vous entend difficilement, mon cher Grégoire, ce matin. On va vous laisser reprendre un petit peu de sirop d'ici là, petit être fragile que vous êtes. Restez avec nous sur Sud Radio, on parle logement dans un instant.
On va parler logement avec une élue engagée qui incarne une bonne classe politique qui se bat, qui fait de son combat le focus sur le gaspillage de mètres carrés.
Optimisez vos mètres carrés, voilà, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.
On parle logement jusqu'à 10h avec vous, Sylvain Lévy-Valency, et avec votre invité.
Absolument, merci. Bonjour, Éléonore Slamin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maire adjointe dans le 12e arrondissement, vous êtes en charge du logement, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion. Vous êtes également maire du quartier Bel Air Nord, c'est dans le 12e arrondissement.
Tout à fait.
Merci de répondre à nos questions. Vous avez publié un livre que je vais montrer. Je ne sais pas si on a une caméra. Voilà. En finir avec le gâchis de mètres carrés, ce que vous dites finalement en substance, c'est que on n'utilise pas assez finalement ces surfaces. Et à l'instar d'une crise du logement sans précédent dans notre 5e République, vous insurgez contre ce phénomène-là. Et vous vous dites finalement, on pourrait trouver des solutions. C'est bien ça ?
Exactement. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous vivons au cœur d'un immense gâchis, au même titre que le gaspillage alimentaire, que la fast fashion, le gaspillage de l'eau, de l'énergie. On vit au cœur d'un gaspillage immobilier, le gaspillage des mètres carrés, qui se caractérise très concrètement, déjà bien sûr par la vacance. 3 millions de logements vacants aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, 5 millions de mètres carrés de bureaux vides rien qu'en Ile-de-France, et puis il y a aussi la sous-utilisation massive et généralisée de nos mètres carrés. Grosso modo, 80% du temps, nos bureaux, nos écoles, nos équipements publics sont vides et ne servent à rien ni à personne.
Qu'est-ce qu'on peut faire
pourtant,
on va loger des personnes dans les écoles, on va aller dans les bâtiments publics, on va ouvrir finalement en rotation. Comment on peut faire pour optimiser ça ?
Alors, l'idée, c'est de penser les espaces autrement. Pendant des années, la ville a été pensée par spécialisation avec des objets à usage unique, des bâtiments monofonctionnels avec un mantra, un bâtiment, un usage. Or, par nature, les espaces monofonctionnels sont condamnés à être en sommeil à certains moments de la journée, de la semaine ou de l'année. Et à l'inverse des quartiers, des bâtiments mixtes, sont plutôt tournés vers une utilisation plus intensive. Et donc, très concrètement, l'idée, c'est pourquoi pas, en effet, faire en sorte que votre restaurant d'entreprise puisse être transformé en brasserie ouverte à tous le soir et le week-end. Que nos écoles puissent proposer d'autres usages, d'autres services pendant les vacances scolaires. Que nos bureaux inutilisés à certains moments de la journée pourrait très bien être proposé à des étudiants en manque d'espace de travail, qui font parfois la queue devant les bibliothèques pendant des heures, juste pour obtenir un petit poste de travail.
Vous êtes sûr qu'un restaurant inter-entreprise, qui n'est pas forcément hyper sexy en termes de look, puisse accueillir du public en dehors des heures ?
Mais oui, tout à fait. Alors, l'idée, ce n'est pas d'intensifier tout.
Oui,
tout le temps.
Je comprends.
N'allons pas dans la caricature, mais de penser autrement nos mètres carrés, de changer de regard sur ces mètres carrés là, et de penser plutôt les bâtiments, les espaces, un peu comme une grande salle polyvalente qui peut accueillir plusieurs fonctions, plusieurs usages, encore une fois, au cours de la journée, de la semaine ou de l'année.
Prenons par exemple la crise du logement, avec la crise de l'immobilier qu'on vit actuellement. Vous le savez, c'est un drame absolu. Vous avez lu comme moi les articles sur les enfants de moins de 5 ans qui dorment à la rue tous les jours dans Paris, plus de 2000.
Que dans Paris, dans toute la France.
On a pris Paris parce que le chiffre est quand même très significatif. C'est assez violent, on peut le dire. Parce qu'on y voit, je reprends votre livre, il y a des solutions extrêmement pragmatiques. On peut pas être forcément d'accord sur tout, on est d'accord. Mais par contre, on se dit, est-ce que c'est pas une solution alternative à la crise du logement? Comment on peut faire? Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est réaliste de vous dire que dans une école où il y a du mètre carré disponible, qui est pas forcément utilisé ou qui est très largement sous-utilisé, on pourrait en faire des logements, par exemple, de transition, de l'urbanisme temporaire, par exemple? Est-ce que c'est des solutions concrètes, ça?
Alors, Vous avez raison de dire qu'on vit dans une aberration. Aujourd'hui, en effet, on sous-utilise massivement nos mètres carrés, on est au cœur de ce gaspillage, et en même temps, on continue à artificialiser les sols. C'est 4 à 5 stades de foot toutes les heures qui sont aujourd'hui artificialisés, et on connaît les conséquences...
Un peu moins en ce moment, avec 50% de baisse de la construction.
Mais on connaît... les chiffres sont quand même très importants, et on connaît les conséquences, malgré tout, de cette artificialisation. On l'a vu en Espagne il y a quelques semaines encore, et vous l'avez dit, nous vivons absolument une crise sans précédent de la question du logement. 4 millions de personnes sans abri, 4 millions de personnes mal logées, 330 000 sans-abri, 2 000 enfants qui dorment sur toute la France à la rue aujourd'hui. Donc il est temps vraiment de changer de regard là-dessus. Il y a des choses qui existent, par exemple l'association des bureaux du cœur qui permettent à un sans-abri d'être accueilli dans les bureaux la nuit pour y dormir. Des sans-abri qui sont suivis socialement par des travailleurs sociaux, qui n'ont pas d'addiction, etc. Donc c'est pas forcément toute la population générale, mais de ce public particulier. Mais c'est une solution. Vous me parliez des écoles. Bah oui, par exemple, à Noirmoutier, l'école se transforme en centre d'hébergement touristique à bas coût l'été pour accueillir des familles. Ce sont des choses qui existent. Il y a déjà des exemples très précis un peu partout sur tout type d'actifs. Là, on parle des écoles, on peut parler des logements parce qu'on pourrait très bien imaginer demain que nos logements puissent accueillir bien un atelier partagé, une chambre d'amis partagée, ça nous évite parfois d'avoir une pièce en plus, la buanderie partagée, comme c'est le cas à New York. Mais on peut aussi penser pour les immeubles tertiaires, à ce qui peut se faire, par exemple Novaxia, se transforme, donc le siège social de cette entreprise se transforme en tiers-lieu associatif le soir et le week-end. BNP Paribas Real Estate, dans son nouveau siège Metal 57, a créé une rue intérieure bardée de tout un tas de commerces et services à Boulogne, donc pas très très loin, qui est ouverte à toutes et tous. C'est une autre nouvelle façon de penser la ville qui nous permet de mieux utiliser nos espaces.
Je trouve ça extrêmement intéressant que les entreprises s'emparent. Vous faites allusion à Novaxia, c'est le siège rue Saint-Charles, me semble-t-il.
Dans le 15e arrondissement de la capitale.
Un arrondissement très cher à notre ami Jean-Marie. Vous avez mis en place un indicateur, je voudrais en savoir plus, universel, je cite, du taux d'utilisation des espaces qui s'appelle l'intensiscore. À quoi ça correspond?
En fait, mon idée, c'était sur le modèle du DPE ou du Nutri-Score. L'idée, c'est de révéler au monde le gâchis des mètres carrés. Pour ça, il faut le mesurer. Et donc, on a mis en place cet Intensi-Score, qui est une plateforme en ligne gratuite. Tout le monde peut s'y connecter, qui est très pédagogique, très simple à utiliser, et qui, en répondant à quelques questions, vous permettra d'avoir une idée objectivée de l'utilisation d'un espace, d'un immeuble, et puis de faire varier cette utilisation en fonction des jours, des moments de l'année, de la semaine, etc. Et puis, parce qu'il ne suffit pas de dire il y a un problème, il faut le traiter, on donne aussi des clés pour agir très concrètes, puisque en plus de cet Intensi-Score, avec le groupement d'acteurs publics et privés que j'ai créé pour cela, nous avons rendu public un guide, pareil, disponible gratuitement en ligne, n'hésitez pas à le télécharger, pour vous donner des pistes très concrètes pour lever les freins, les obstacles qui aujourd'hui nous empêchent d'aller un peu plus loin, les freins juridiques, assurantiels, techniques, de gestion.
Alors, vous avez raison de le signifier, parce que, je veux dire, votre livre a la vertu, finalement, de mettre un focus vraiment particulier, je cite, en finir avec le gâchis de mètres carrés, aux éditions Apogée. Vous êtes une élue dans la ville de Paris, bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde.
C'est une fierté.
Ça peut arriver, non, mais je vous taquine. Paris connaît un taux de vacances, c'est vrai, très important.
Un taux de vacances, c'est-à-dire
vacances locatives, vacances c'est-à-dire à la location, c'est-à-dire qu'on a des propriétaires qui conservent leurs immeubles ou leurs appartements, et qui préfèrent, mon cher Jean-Marie, ne pas louer, par exemple.
Qui ne les utilisent pas, mais qui en plus les louent pas.
Voilà, de la vacance locative. Donc
on a 128 000 actuellement logements vacants à Paris.
Alors,
ça ferait baisser les loyers.
Alors, il ne s'agit pas, je vais prendre une précaution oratoire, il ne s'agit pas de fustiger les propriétaires dont on a réellement besoin dans ce pays, puisque je rappelle quand même que 62% des locataires du parc locatif seraient éligibles au logement social, mais ça, vous le savez
70%.
70%. Alors, 70%. Alors, donc on a besoin de ces millions de propriétaires, et mesdames et messieurs, vous toutes qui nous écoutez, on a besoin des propriétaires qui louent. Il y a un nombre important de bâtiments donc qui est également public. Est-ce que la ville, globalement, la ville, Madame Hidalgo, la collectivité s'en est emparée, et quelles sont les démarches qui ont été entreprises?
Bien sûr. Alors, il y a une politique volontariste sur la question du logement en règle générale, et aussi sur la question du logement vacant, puisque vous l'avez rappelé, les chiffres sont extrêmement importants. Donc nous mettons en place un certain nombre de dispositifs pour inciter les propriétaires à mettre leurs biens sur le marché. Je pense par exemple à Louer solidaire et sans risque, qui permet aux propriétaires d'obtenir en cas d'impayé les revenus qui vont bien. Mais même si par exemple votre logement a été dégradé, la ville peut vous donner des fonds pour pouvoir le remettre en état. Mais sur la question plus générale du gaspillage immobilier et de la sous-utilisation, Nous avons un patrimoine municipal, un patrimoine public, et nous faisons en sorte de mieux l'utiliser, de mieux l'optimiser. Ça passe déjà par, on a mis en place un catalogue de nos équipements, nous avons mis en place des délibérations qui permettent à tout un tas, et même aux particuliers, de louer nos équipements publics pour réaliser des événements quelconques. Et puis, nous avons par exemple ouvert depuis 3 ans maintenant à Paris les cours d'école et de crèche aux petits parisiens le week-end. C'est bête à dire, mais c'est quand même très pertinent, moi qui ai des enfants en bas âge, de pouvoir justement leur permettre de bénéficier de ces espaces qui sont sinon étaient fermé et ne servait strictement à rien.
Merci. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, le temps nous est compté, mais on aura l'occasion de se revoir avec beaucoup de plaisir. Merci d'être venu, Éléonore Slama. Je rappelle que vous êtes maire adjoint dans le 12e arrondissement et maire du quartier Bel Air dans le 12e, également l'autrice de En finir avec le gâchis de mètres carrés aux éditions Apogée. Procurez-vous-le, et vous allez voir, c'est très intéressant. Merci à vous.
Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On parle IMO jusqu'à 10h. Dans quelques instants, le répondeur de Sud Radio, 0826-300-300. Que faire quand on a des dégâts des eaux qui s'accumulent se multiplie chez soi et qu'on est locataire. À tout de suite.
Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency.
Jusqu'à 10h, on parle logement avec Sylvain Lévy-Valency et toute l'équipe de Parlons IMO. Tout de suite, on écoute le répondeur de Sud Radio.
Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente.
Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Mais oui, ça vous concerne. C'est pour ça que vous êtes nombreux à laisser vos messages au 0826-300-300. On parle dégâts des eaux, je crois, ce matin, mon cher
absolument.
Sylvain.
Vous savez, à la période de l'hiver, on a souvent des gros problèmes de dégâts des eaux. D'ailleurs, ça va affluer de plus en plus. Malheureusement, Grégoire, on a eu d'ailleurs une question très précise sur ce sujet.
Oui, Sylvain, un appel au secours même d'une auditrice qui habite son logement depuis 5 ans. Elle a eu plusieurs dégâts des eaux, des infiltrations, notamment par le sol. Au fur et à mesure, le logement est devenu de plus en plus humide et des moisissures sont apparues. Avec les dernières pluies, forcément, la maison a été inondée par le sol. Leur propriétaire, qui jusque-là tentait tant bien que mal de faire des petits travaux, a finalement dit que la seule solution était de démolir le logement pour refaire toute la toiture.
Wow.
Il a écrit une lettre pour qu'ils puissent la joindre à leur demande de logement auprès du maire, mais dans celle-ci, il indique que notre auditrice doit quitter les lieux le plus rapidement possible. Et le problème, c'est qu'il ne propose aucune solution pour les reloger. Alors aujourd'hui, elle a contacté le maire de sa ville, mais vit toujours dans la maison avec des soucis d'électricité, de chauffage et d'humidité. Elle aimerait savoir si elle peut refuser de payer le loyer le temps d'être relogée et qui contacter pour faire diagnostiquer la dangerosité du logement et comment surtout bien se protéger juridiquement. Justement, pour faire le tour de la question, j'ai demandé à un expert de venir nous donner un petit coup de main. C'est notre avocat préféré, maître Romain Rossi-Landy. Bonjour maître.
Oui, bonjour.
Et
bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors maître, très simplement, que doit faire notre auditrice?
Alors, première chose, il y a beaucoup d'informations. Première chose, elle ne peut pas, ça j'insiste, arrêter, suspendre elle-même de son propre chef le paiement du loyer. Ça, c'est absolument interdit. Même si apparemment le bien est totalement inhabitable et il est manifestement impropre à l'habitation puisqu'il y a des moisissures. Ce qu'elle doit faire, c'est très clairement insister auprès de la mairie, parce que normalement, alors je ne sais pas où elle habite, mais ça dépend des mairies. Il y a certaines mairies qui ont carrément un service communal d'hygiène et de santé qui est spécialisé pour ces questions-là et qui a l'obligation d'intervenir, de faire une enquête, de saisir ce qu'on appelle l'agence régionale de santé, qui peut même conduire jusqu'à un arrêté du préfet, ce qu'on appelle un arrêté d'insalubrité. En fait, c'est une procédure d'insalubrité. Et ça, croyez-moi, pour les propriétaires indélicats, c'est absolument redoutable, ouais. Parce que ça suspend automatiquement le paiement du loyer. Donc là, à ce moment-là, elle pourra effectivement s'affranchir du paiement du loyer, mais uniquement s'il y a un arrêté d'insalubrité. Et surtout, le propriétaire sera mis en demeure de faire les travaux qui s'imposent. Alors là, a priori, elle pourra pas continuer à habiter dans cette maison qui doit être démolie, ce qui me paraît quand même assez incroyable, mais c'est peut-être possible. Et à ce moment-là, le préfet peut même prévoir une obligation de relogement à la charge du propriétaire.
Ouais.
Et dans un secteur, alors ça, c'est arrivé à des clients, moi j'ai des clients qui ont payé des factures d'hôtel et même de Airbnb pendant plusieurs mois pour pouvoir faire les travaux dans la maison, et pendant ce temps, le locataire était, ce qui est normal, hein, c'est l'obligation de délivrance, hein, le propriétaire est responsable. Donc il faut surtout pas se faire justice soi-même dans ces dossiers-là,
ouais,
il faut saisir les services compétents. Alors parfois, ce qui est vrai, c'est que certaines mairies, quand c'est une petite commune, ils n'ont pas de service d'hygiène, ils savent pas trop intervenir, ils bougent pas. Alors le maire doit le faire, c'est sa responsabilité dans le cadre de son pouvoir de police générale, ça, il faut le rappeler. Et si c'est le cas, moi je conseille à mes clients, allez directement voir l'ARS, l'Agence régionale de santé, hein, ils sont là pour ça, c'est un service public. Et l'autre avantage, c'est que c'est gratuit. Donc il n'y a pas de démarche, il n'y a rien à payer, il faut juste que l'inspecteur vienne sur place, il faut mettre parfois un peu la pression pour que pour qu'ils viennent, mais ça fonctionne assez bien.
C'est long ou pas ces procédures?
Ben, ça dépend un peu des interlocuteurs que vous avez. Mais ça peut, il y a des départements, je le sais, où ça fonctionne bien. Dans les Hauts-de-Seine, ça fonctionne bien. Ils sont assez redoutables, l'ARS des Hauts-de-Seine. Donc, non, ce sont des exemples personnels, mais voilà, il faut pas hésiter pour le locataire à maintenir la pression.
Oui.
Alors après, il y a des voies juridiques, hein, judiciaires, bien sûr, classiques, hein, que moi je connais bien en tant qu'avocat. On peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal local, demander des dommages à intérêt, demander même une obligation de reloger, d'être relogé par le propriétaire sous astreinte. Enfin, il y a tout un tas de moyens.
Mais première étape, c'est bien saisir la mairie.
Oui, c'est la mairie, l'interlocuteur principal, le maire, et qui doit venir constater, parce que c'est la responsabilité du maire. Les logements indécents, c'est la responsabilité du maire. Il faut le rappeler aussi à votre antenne, s'il y a des logements indécents, le maire peut aussi engager sa responsabilité. Il doit lutter contre ça aussi, à son niveau.
Procédure d'insalubrité, donc.
Exactement.
Exactement.
Donc, et juridiquement, on le rappelle, c'est très important qu'elle ne se fasse pas justice elle-même, et donc qu'elle n'arrête pas d'un coup de payer ses loyers.
Jamais, on doit jamais, redis à votre antenne, aujourd'hui le locataire ne se fait jamais justice humaine. Il faut soit une autorisation de juge, soit arrêter d'insalubrité. Oui.
Oui, Romain, est-ce que, par exemple, le locataire qui veut payer, qui veut consigner ses loyers sur un compte séquestre chez un huissier pour marquer le coup, c'est pas possible ça, hein?
Non, alors il y en a qui le font, je sais bien, mais ça ne fonctionne pas parce que c'est pas une autorisation du juge. Il faut demander au juge l'autorisation préalable.
Dans tous les cas, même de toute façon, il sera obligé de le débourser, donc ça les avance pas davantage.
Oui, mais ça. C'est un mauvais calcul de dire voilà, je vais quand même payer le loyer, le mettre sur un compte séquestre, qui sera pas touché par le propriétaire pour lui dire que finalement je paye. Dans tous les cas, il faut une ordonnance du juge de toute façon.
Non, parce que le locataire qui fait ça s'expose. Moi, je suis le bailleur. Voilà, je fais un commandement de payer visant la clause résolutoire et le bail résilie automatiquement.
Bien sûr. Bien sûr.
Ouais. Donc autant mettre la pression sur le propriétaire.
Plus rien. On est expulsé, c'est tout sans droit.
Eh bien, écoutez, merci pour ces conseils, Maître Rossi Landy. Puis merci à un prochain éclairage sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Oui, c'est vrai que les problèmes d'infiltration, ça nous concerne. Mais alors, il y a aussi les problèmes de chauffage.
Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente...
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Hey, le chantier du siècle, Grégoire Daricot.
Et oui, nous sommes ravis d'en parler chaque semaine, de parler rénovation énergétique. Avec nous, Laurent Permas. Bonjour Laurent, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Et cette semaine, Laurent, j'ai envie de changer ma chaudière à gaz. Mais j'ai cru voir dans la presse que la TVA allait augmenter. Alors, est-ce qu'il faut que j'en profite?
Bonjour Grégoire, vous avez bien lu. En effet, il y a deux types de chaudières qui sont concernées. La première, c'est la THPE, la chaudière à très haute performance énergétique, qui bénéficie aujourd'hui d'un taux de TVA à 5,5. Et celles moins performantes qui sont en fait les chaudières à basse température qui, elles, bénéficient d'un taux à 10%. Et vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour bénéficier encore de cette TVA.
Ah oui.
À partir du 1er janvier 2025, ces taux de TVA vont augmenter de 20% pour ces deux types de chaudières lorsque, justement, vous allez choisir une chaudière à gaz.
Et c'est quoi, du coup, l'impact financier, Laurent, de cette hausse?
Eh bien, en moyenne, une chaudière à gaz, c'est 5000 euros avec la TVA 5,5 incluse. Et donc, au 1er janvier 2025, celle-ci va passer avec une TVA à 20%, c'est 700 euros de plus sur votre facture.
C'est pas neutre, hein, pour
l'instant. Non, c'est pas neutre, mais Laurent, du coup, pourquoi cette hausse de la TVA sur les chaudières THPE?
Eh bien, Grégoire, c'est tout simplement parce que ces chaudières sont des combustibles fossiles. C'est le gaz naturel. Alors, c'est la directive européenne du 24 avril 2024, qui rentre en jeu. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de directives, mais celle-ci rentre en jeu. Et c'est une augmentation de TVA qui est impactée. C'est une façon d'inciter, en fait, les Français à utiliser des sources d'énergie renouvelables et puis non fossiles. Donc finalement, ces incitations, financières, elles sont en faveur, forcément, défaveur du cas des chaudières à gaz. Et il faut savoir qu'en France, le gouvernement avait déjà fait un choix d'exclure les chaudières à gaz du dispositif d'aide MaPrimeRénov.
Oui.
Et c'était déjà en 2023. Donc vous voyez, tout arrive. Mais c'est vrai que là, le 1er janvier 2025, l'impact est très clair.
Ce qui veut dire que progressivement, il faut quand même qu'on se prépare à choisir autre chose comme mode de chauffage si on voit des signaux faibles qui
c'est
montrent
très
que à chaque fois,
absolument,
ça tombe dessus en termes de taxes.
Exactement. Hein. Bah, vous m'enlevez ma question, Jean-Marie. Ah. Est-ce que, Laurent, il faut que je me dépêche de changer ma chaudière?
Alors, attention, parce que jusqu'au 31-12-2024, c'est vrai qu'on a encore quelques jours.
Oui.
c'est pas le devis, c'est la facture. Ouais. La TVA s'applique sur la facture. Donc c'est quoi ? C'est l'installation. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même vous dépêcher, certes, et puis se pose la question quand même des pièces de rechange, vont-elles être impactées sur la TVA à 20%,
gros sujet.
Donc il y a quand même des incertitudes.
Et l'entretien également.
Et la maintenance, voilà. Donc notamment ces incertitudes posées dans le projet de loi de finances. Donc prudence, c'est la facture qui fait foi, c'est l'installation, ce n'est pas le devis.
Et on rappelle, Laurent, qu'il faut passer par un artisan RGE, reconnu garant de l'environnement, un label qui est fixé par l'État, et puis pourquoi pas contacter, demander conseil auprès d'un MAR, mon accompagnateur Rénov', pour notamment un audit énergétique.
Tout ça est sur les sites internet du ministère de l'écologie, et donc vous trouvez l'annuaire d'un accompagnateur Rénov' agréé par l'État et un artisan RGE qui est un agrément obligatoire. C'est un label qui est reconnu garant de l'environnement.
Sans ça, on n'a pas l'état de l'État. On est
absolument.
On s'enseignera sur les MAR, les RGE, sur un site qui terminera par écologie ou développement-durable.gouv.fr.
Et puis, exactement, et n'hésitez pas à appeler le 0826-300-300.
Exactement, ça c'est plus simple. Et Sud Radio vous répond toujours. Merci à vous. En tout cas, on continuera à parler de transition écologique et surtout de rénovation énergétique chaque samedi sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.
Et puis, chers amis, je vous propose qu'on termine par un petit tour de France des biens à acheter.
Voilà, tour de France, tour d'Europe ou même tour du monde, on peut y aller. La rédaction, cette semaine, a eu des coups de cœur, mon cher Grégoire.
Oui, pour le premier bien, Sylvain, je vous emmène dans le Val d'Oise. Bienvenue à Usse, en plein parc naturel régional du Vexin français. C'est une maison ancienne que je vous ai trouvée, une maison à proximité immédiate des établissements scolaires et d'une maison médicale. Une propriété de caractère construite sur plusieurs niveaux qui comprend 14 pièces, dont 7 chambres sur 294 mètres carré. Elle comprend un séjour sous verrière, un salon, une salle à manger voûtée, une buanderie et donc cette chambre. Notre maison se distingue par une architecture unique, une atmosphère chaleureuse. Elle s'étend sur un terrain de plus de 2000 mètres carrés, sur lequel vous trouverez une terrasse sans vis-à-vis, un jardin arboré, des arbres fruitiers et un potager. À noter que la gare SNCF ne se trouve pas loin, sur la ligne J. Notre maison, elle est proposée au tarif de 445 000 euros par l'agence EXP France.
Et on emprunte avec 20% d'apport.
Soit 89 000 euros. Un emprunt sur 25 ans à 3,2%. Et vous avez des mensualités à 1725,46 euros.
Voilà, pour les us et coutumes. Notre deuxième bien, c'est plutôt un bien insolite dont il s'agit.
Oui, imaginez habiter dans une turbine d'éolienne. On pourrait dire cette idée... On pourrait dire effectivement que cette idée, elle est saugrenue, tout droit sortie d'un film de science-fiction. Pourtant, c'est bien réel. C'est l'énergéticien Vattenfall qui a présenté ce concept révolutionnaire à l'occasion de la Dutch Design Week, donc à Eindhoven fin octobre. Il s'agit de convertir une turbine en tiny house, c'est-à-dire dotée de tout le confort moderne.
C'est heureusement qu'on avait une invitée qui nous parlait d'optimisation des mètres carrés.
Ah ben, j'optimise à fond. 4 mètres de large, 10 mètres de long, 3 mètres de haut.
On
elle comprend une cuisine, une salle de bain, des équipements modernes comme une pompe à chaleur et des panneaux solaires.
Est-ce que la chambre est dans les ou pas
Mais c'est une initiative audacieuse et écologique qui pourrait redéfinir notre vision de l'habitat du futur et être, pourquoi pas, le point de départ de ce fameux kibboutz urbain dont rêve notre cher Sylvain.
Voilà, c'est ça. Le kibboutz urbain.
Si jamais vous avez la tête qui tourne à la fin, vous saurez pourquoi. Merci beaucoup, Grégoire Darico. C'est la fin de Parlons Immo sur Sud Radio. On vous retrouve samedi prochain pour parler logement. D'ici là, laissez vos messages sur le répondeur au 0826-300-300. Émission rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Immo. À bientôt, Sylvain.
Absolument. On se retrouve également au Salon des maires du 19 au 21 novembre, aux portes de Versailles.
Exactement, le rendez-vous est pris. Sud Radio y sera également.
Sud Radio, parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency.